Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue du grain à moudre d'été. Ce soir, de quoi l'affaire François de Rugy est-elle le nom ? Il pliait, il résistait depuis près d'une semaine, il a fini par céder. François de Rugy a présenté sa démission cet après-midi, démission acceptée quelques minutes plus tard par le président de la République. Rideau donc pour celui qui n'a occupé le poste de ministre de la Transition écologique que pendant 10 mois. Un poste décidément délicat, voire maudit. L'an dernier, c'est Nicolas Hulot qui en démissionnait, vous vous en souvenez peut-être. Certes, c'était pour d'autres raisons. François de Rugy part donc au terme d'une semaine de révélations, des enquêtes de Mediapart qui portaient au fond sur un seul sujet, l'usage qu'il a fait de l'argent public, des dîners à l'Assemblée, des travaux dans son ministère et des indemnités de frais de mandat utilisées de manière étonnante. L'affaire de trop, d'ailleurs, semble-t-il, celle que le site d'information a publiée aujourd'hui. Partant, les questions sont nombreuses, morales, médiatiques et politiques autour du cas de cet élu héros de la transparence et de la réduction du train de vie de l'État. Bref, qu'est-ce que dit cette affaire ? De quoi l'affaire François de Rugy est-elle le nom ? Pour en parler, trois invités. Daniel Bois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, directeur de recherche émérite au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Vous travaillez notamment sur l'écologie politique. Vous avez participé à la rédaction du Dictionnaire de la pensée écologique, livre publié par les presses universitaires de France. Vous êtes aussi administrateur de l'association Transparency International. Géraldine Munemann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, journaliste, et nos auditeurs vous connaissent bien. Vous participez régulièrement au Club du Grain à Moudre. Avec nous, également en ligne, Corinne Lepage, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, ancienne ministre de l'Environnement, c'était entre 1995 et 1997, et ancien soutien d'Emmanuel Macron, déçu notamment par sa politique sur l'écologie. Nous allons en reparler.
On peut avoir envie de lâcher prise, mais je ne le ferai pas.
On reproche souvent aux hommes et aux femmes politiques d'être dans une forme de bulle politique. Eh bien moi, j'ai toujours souhaité que l'Assemblée nationale soit ouverte.
Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard ? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Et on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. Enfin, je n'aime pas les huîtres. Je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Je n'ai jamais profité indûment d'un logement social. Et je lis ça dans un article. Je donne toutes les preuves à Mediapart. Le but, c'est quoi ? C'est d'informer le public ? Ou c'est de mener en permanence des campagnes contre le gouvernement, contre ceux qui gouvernent d'ailleurs ? C'est le fantasme des coupeurs de tête.
Non, je n'ai absolument pas de raison de démissionner.
La défense de François de Rugy, compilée par Thomas Jost. François de Rugy, on l'a entendu, à la fois touché et combatif. « Je n'ai pas de raison de démissionner », c'est ce qu'il disait sur BFM TV vendredi dernier. Qu'est-ce qui a changé en 4 jours pour que finalement François de Rugy démissionne, Géraldine Munemann ?
Écoutez, je pense que un journal, ça peut se tromper. Une enquête, ça peut faire fausse route. Bon, une photo peut mentir sur certaines choses. Et c'est vrai qu'en entendant François de Rugy, on se disait peut-être que il y a des malentendus. Cela dit, Mediapart peut avoir des défauts, mais on sentait quand même que l'enquête avait été rondement menée, avec rigueur. Je crois savoir qu'il y a 1 ou 2 points néanmoins qui sont contestés aujourd'hui. Je crois que c'est sur l'appartement. J'ai entendu ça un peu brièvement avant d'arriver.
François de Rugy a porté plainte d'ailleurs pour
annonce,
vouloir porter plainte pour diffamation.
Mais enfin, moi je fais partie de ces gens qui étaient les premiers à vouloir entendre François de Rugy rectifier un certain nombre de choses s'il y avait des choses à rectifier. Donc c'est, tout ça pour répondre à votre question. Je pense que si aujourd'hui il démissionne, c'est que sur le fond, à quelques détails près, peut-être on verra, mais que sur le fond, rien fondamentalement de ce qu'a raconté Mediapart n'est faux. Et que dans ce pays, en ce moment, c'est problématique d'avoir mené ce train de vie un peu princier. Ça ne se fait plus. Et puis en plus, maintenant, on entend les phrases je savais pas, j'aime pas le homard. Enfin, il y a l'impression qu'il est complètement débordé par les fonctions qu'il occupait. Il n'y décidait rien. Ça va pas. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il a démissionné.
Daniel Bois.
Ces derniers jours, aujourd'hui en particulier, on est passé d'un registre à l'autre. Parce qu'au fond, le premier registre, qui était celui des dépenses dites somptuaires en tant que président de l'Assemblée nationale, Ça relève de la déontologie, c'est-à-dire que, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est la déontologue de l'Assemblée nationale qui était chargée d'examiner le problème, et c'est un problème compliqué, c'est-à-dire qu'il faut voir effectivement est-ce que le poids des invités plutôt privés par rapport au poids des invités professionnels, voilà, peser les choses. Donc on est dans la déontologie, et voilà, ceci dit, il n'a pas donné la liste de ses invités, et on n'a pas eu le résultat de l'examen par la déontologue. De même, l'examen de l'appartement, bah là aussi, c'est quand même...
17 000 euros de travaux pour un dressing, entre autres.
Hein. Oui, bien sûr. Alors là aussi, c'est de la déontologie, c'est pas un délit. Hein, voilà. Maintenant, ça passe à autre chose aujourd'hui, quand il s'agit de l'utilisation de son indemnité parlementaire. Parce que là, ça n'est pas permis. On n'est plus dans l'ordre de la déontologie, mais de ce qui est réglementairement interdit par la loi. C'est-à-dire qu'il...
Pour préciser les choses, François de Rugy est accusé d'avoir versé illégalement, donc, dans les caisses de son parti d'alors, Europe Écologie Les Verts, 9 200 euros directement puisés dans ses indemnités de frais de mandat, ce sont les informations de Mediapart, et d'avoir, après, défiscalisé cette somme sur ses revenus personnels.
Et moi, franchement, je pense que c'est là-dessus qu'il démissionne. Parce que là, ça n'est pas de l'ordre de la déontologie. C'est strictement interdit, depuis pas très longtemps. Mais on vérifie maintenant, depuis pas très longtemps, la manière dont les parlementaires utilisent leur indemnité.
Il y en a d'ailleurs une quinzaine qui
sont
concernés par des problèmes par le passé.
Apparemment, il les a bien utilisés pour payer sa cotisation ELV et ensuite pour le déduire de ses impôts. Bah, là, il est en tort.
C'est cette affaire, selon vous aussi, Corinne Lepage, qui a poussé François de Rugy à démissionner aujourd'hui?
Je pense, et puis c'est aussi l'accumulation. Maintenant, moi, je vais poser d'autres questions. La première, tout ça, ça vient d'où? Je veux dire, par là, j'ai entendu dire, mais bon, je me méfie beaucoup des rumeurs, que les informations ont été communiquées à Mediapart par l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Si oui, qui est derrière tout ça?
De quelles informations parlez-vous? De celles révélées par Mediapart aujourd'hui?
Peut-être pas celles d'aujourd'hui, mais enfin, j'en sais rien. J'ai entendu dire qu'il y avait des sources qui venaient de l'Assemblée nationale. Lesquelles, je ne sais pas, et pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est quand même une question, parce que qu'un journaliste ou un journal fasse une pute, c'est son boulot. Que des gens très bien intentionnés fassent passer des informations, vous voyez bien que c'est une autre affaire. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec Daniel Bois. Là, on est entré dans un autre registre, même si, à mon sens, l'accumulation des problèmes faisait que, sur le plan strictement de son portefeuille ministériel, c'était ingérable. Je veux dire par là, vous avez rappelé en commençant que c'était un ministère très exposé, puisque Nicolas Hulot a tenu un peu plus d'un an, et lui, c'est des sujets qui sont très difficiles, très conflictuels. Il avait le titre de ministre d'État, c'est-à-dire numéro 2 du gouvernement, précisément pour essayer de lui donner, je suppose, du poids dans les arbitrages. Il est très clair qu'il n'était plus en capacité d'avoir le poids nécessaire pour gérer ce ministère. Alors même si je suis un peu gênée que, comme c'était rappelé tout à l'heure, on n'ait pas les vérifications de tout. Sur le plan de l'environnement, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je pense que c'est une bonne chose parce que on ne pouvait plus défendre convenablement son portefeuille ministériel. Maintenant, savoir qui va le remplacer, si on va avoir
quelqu'un
qui est solide ou pas.
La ligne n'est pas très bonne, Corinne Lepage. Nous allons peut-être essayer de vous rappeler de manière à pouvoir continuer la discussion avec vous jusqu'à 19h. Trois grandes questions donc dans ce dossier. On a commencé déjà à les évoquer. Question morale aussi qui porte sur la confiance et la cohérence du discours politique. Question médiatique avec ces enquêtes répétées, ces informations qui sont sorties quasiment chaque jour par Mediapart. Et puis question politique. Qui pour remplacer François de Rugy? Corinne Lepage vient de le dire. Pour quelle politique aussi, on va en parler ensemble. Commençons par la morale. Est-ce que c'est par ce prisme-là qu'on a peut-être trop vu l'affaire François de Rugy, Daniel Bois?
Ben, on est obligé de le voir de cette façon-là, puisque c'est de façon-là que Mediapart nous l'a présenté. Alors après, c'est très discutable, parce que au fond...
Vous disiez, il n'y a rien de répréhensible.
Non, il n'y a rien de répréhensible. Mais vous savez, aujourd'hui, dans une situation où on a ce qui est du domaine de l'éthique, de la morale, qui est ressenti par la société. Mais ce qui est aujourd'hui du domaine de l'éthique et de la morale, c'est peut-être demain ça sera peut-être demain devenu de la loi. Et l'éthique et la morale, telle qu'elle est perçue par le grand public, elle est importante parce que on est, vous le savez, c'est pas un secret, dans une situation où la politique est très mal vue. Bon, je m'entends pas là-dessus. C'est un problème monumental, le problème de la confiance. Le public est très attentif aux fautes éventuelles que fait le truc. Et puis arrive ce truc. Alors là où c'est d'une dureté incroyable, c'est que c'est de l'image, l'image des homards. Mmh. Rappelez-vous l'image des cigares de Monsieur Christian Blanc, 12 000 euros de cigares achetés sur les fonds publics. Rappelez-vous il y a quelques années, il est parti très vite. Hein. C'était le secrétaire d'État au Grand Paris. Là, c'est pareil, c'est la consommation supposée ostentatoire et qui n'est pas véritablement dans un cadre public. Ceci dit, les dîners de la République ou les déjeuners de la République, à mon avis, ils sont toujours fastueux. Mmh. Simplement, ils se défendent en disant « oui, bien sûr, mais c'est pour des raisons politiques, on invite des gens... »
De représentation.
Voilà. Mmh. Là, il y a un petit peu quelque chose qui se bouscule entre le privé et le public, et ça, actuellement, le grand public ne le pardonne plus du tout, du tout.
Géraldine Mühlmann.
Les critères sont évidemment... approximatif, changeant, parfois difficile même à exhiber clairement, parce qu'en vérité on dit morale, mais on est dans l'ordre de la morale politique, de la morale publique et de sa perception aussi. Ce n'est qu'une affaire de perception. Et on est aussi dans l'impureté du politique, avec ce que disait effectivement Corinne Lepage. Il y a eu des délations, ça ne fait pas long d'un doute. Je pense que Mediapart travaille très bien, mais enfin il a eu quelques informations et le boulot du journaliste. La question de l'éthique journalistique est de savoir à quel moment, d'une part, ces informations, je les vérifie, et puis je peux les utiliser, il y a dû y avoir des faisceaux. Et puis certainement, François de Rugy était un peu fragilisé, et puis certainement, il ne devait peut-être pas traiter bien certaines personnes qui en ont eu assez d'accumulation, qui ont envie de parler. Enfin, on est dans du compliqué, et quelque chose qui a à voir avec la vie publique. Ce que je crois, c'est que la vie publique à la française permet des dérives de ce genre. Il faut aussi, c'est humain, à comprendre que quand on est dans ce palais merveilleux, ça ne doit pas être très difficile.
C'est le symptôme
d'un système, non ? D'un système, enfin d'une culture aussi. Il faut quand même reconnaître que nous sommes un pays où c'est ainsi que sont logés les plus grands de l'État. Et je pense que c'est très facile de se laisser faire, de se faire acheter des sèche-cheveux, puisque la question s'est posée, il y a, paraît-il, un sèche-cheveux à 500 euros. Enfin bon, de se laisser faire et de ne pas faire attention si c'est de l'argent public ou pas. Je pense que c'est très facile de ne pas voir. La question, c'est de savoir pourquoi, à ce niveau de responsabilité, ces gens, semble-t-il, n'ont jamais vu une série politique, américaine ou autre, où on voit très bien que ça n'est plus possible. Ils ne se sont jamais posé la question de savoir comment était perçu le fait de dépenser un argent qui n'est pas le sien. Mmh. Ça, c'est quand même aujourd'hui problématique. Que cette perception soit excessive, puritaine, ou on peut en discuter. Il reste qu'elle est là, et que le boulot d'un politique, c'est de savoir, de sentir une opinion publique à un moment donné. Et je dirais que en cela, il y a une faute aussi une faute politique au-delà de la question morale.
La faute politique, Corinne Lepage, elle est aussi elle concerne aussi la différence entre le discours et les actes de François de Rugy, la cohérence de François de Rugy.
Alors, à l'appui de ce qui vient d'être dit et dans le même sens, moi je note quand même un profond changement dans ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas en France. Beaucoup ont dit, et j'en ai été, que la même affaire se serait passée en Allemagne, en Angleterre ou dans le pays du nord de l'Europe. François de Rugy n'aurait pas tenu 2 heures. Il aurait démissionné immédiatement. Nous avons eu, nous, en France, pendant très longtemps, je dirais, pour dire les choses de manière diplomatique, un rapport un peu latin aux questions éthiques. Ce temps est révolu et je ne suis pas sûre que tous les politiques l'aient parfaitement enregistré.
Ça fait quelques années qu'on entend ce discours quand même, Corinne Lepage,
que ce
temps est révolu et il existe encore des affaires.
Ça ne suffit pas, puisque certains n'ont pas tout à fait compris. Deuxièmement, le fait est que, comme disait mon collègue au gouvernement Philippe Basseur, quand le sage veut monter à l'arbre, il faut qu'il ait les fesses propres. Autrement dit, le fait de jouer la morale, la rigueur et tout ça, moi je trouve ça vraiment très bien et je l'encourage bien évidemment, mais il faut être sûr de ne rien traîner derrière soi, parce que si on traîne quelque chose derrière soi, tous les gens qu'on a pu gêner avec ce type de préoccupation s'en souviendront et le moment venu taperont. C'est peut-être aussi ça qui est arrivé, c'est bien possible.
Géraldine Mumann, est-ce que cette affaire représente, je parlais de symptômes tout à l'heure, le symptôme d'une crise de la représentation entre d'un côté les élus et de l'autre les électeurs?
Cette crise, elle a beaucoup de symptômes, elle a une longue histoire, etc. Est-ce que cette histoire cristallise quelque chose? Je trouve qu'elle est d'une extraordinaire simplicité, mine de rien. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire judiciaire, c'est une affaire politico-médiatique. Je fais partie des gens qui considèrent que tout ne doit pas être judiciarisé.
Et que
la presse a aussi ce rôle. Qu'elle le joue. Et ça a des effets qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement ceux qu'elle a souhaités. Son boulot n'est pas de souhaiter des choses, c'est de dire ce qui est. Je pense que les citoyens ont envie de savoir ce qui se passe dans les trains de vie des uns et des autres. Et ça a produit ce que ça a produit. Je dirais que il y a quelque chose de sain aussi dans cette affaire, parce que personnellement, je ne fais pas part. Je pense qu'il faut réfléchir à tout cela et les politiques doivent faire attention. Je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'il faut judiciariser à tout va. Il y a des choses qui ont été judiciarisées, il y a d'autres choses qui le seront, puisque par exemple, le président du Parlement, sur certains aspects, est moins contrôlé que les députés dans leurs frais. On pourrait peut-être équilibrer les choses, mais enfin, je ne pense pas qu'on pourra, en France en tout cas, c'est pas notre culture, et puis c'est pas une très bonne nouvelle non plus pour la politique qu'il y ait des juges tout le temps sur leur dos. Je pense que c'est un contrôle par la politique, par l'opinion et par la presse. Je ne peux pas dire que ce soit malsain, au contraire. Ça a été rapide. Et clair et net, chacun dans son rôle.
Alors, des affaires, il y en a eu, des affaires qui ont été judiciarisées, pour reprendre vos mots, Géraldine Mühlmann. On pense à l'affaire Cahuzac, aux affaires Sarkozy qui sont encore en cours, l'affaire Fillon aussi. Des affaires qui ont eu pour effet, entre autres, d'aboutir à la loi sur la transparence de la vie politique, qui était l'un des premiers grands textes de la mandature actuelle. Est-ce qu'on s'oriente, du coup, avec cette nouvelle affaire, Daniel Bois, vers encore plus de transparence?
Il y a des choses qui restent à compléter. À finir. On donnait l'exemple tout à l'heure de la vérification des dépenses des députés, etc. Mais pas du président de l'Assemblée nationale. C'est assez étrange quand même. Donc, de même, on s'occupe de... Alors là, je suis d'accord avec vous que c'est pas simple de savoir où on met la limite entre la transparence absolue, qui est un peu problématique, puisqu'on va dans le privé, et la transparence. Ceci dit, n'oubliez pas que les politiques, ce sont des gens qui sont élus. Ils s'exposent, ils savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y aura des atteintes à leur vie privée, vraisemblablement, quand ils seront en poste, qu'ils sont vulnérables. Quand on est politique, à mon avis, on accepte une situation de relative vulnérabilité, voire d'indiscrétion. Après tout, on regarde le patrimoine du député ou du parlementaire, et y compris de son épouse, ce qui est quand même extrêmement intrusif. Bon, ils l'admettent, ils doivent l'admettre, parce que c'est la loi qui est comme ça maintenant. Alors, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Par exemple, un domaine, c'est pas celui dont on parle aujourd'hui, mais celui des lobbies, etc., des agendas des députés. Est-ce qu'il faut connaître totalement l'agenda des députés? Voilà une question qui est intéressante. Mais pourquoi pas? Où est le problème? Est-ce qu'une personne publique, on ne doit pas connaître son agenda? Bon, voilà, dans tout ce qui est rencontre avec les lobbies, ça a progressé, ça peut aller plus loin. Je suis d'accord qu'il faut en discuter calmement et ne pas faire n'importe quoi. Mais ça, certainement des choses par rapport aux avancées de la loi qui peuvent être encore améliorées.
Corinne Lepage.
Oui, d'abord, je suis d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure. Il ne faut pas confondre l'éthique et les infractions. Pas la même chose.
Bien sûr.
Jusqu'à maintenant, il n'était pas question d'infraction. Et ce soir, on pense qu'il y en a peut-être une, mais on n'en sait rien. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des choses extrêmement simples à faire. Je suis désolée. Et tout ne relève pas non plus forcément de la loi. J'ai été 5 ans durant parlementaire européen. J'ai pris la décision, sans personne ne me demande quoi que ce soit, de publier mon agenda, c'est-à-dire les groupes d'intérêt que je rencontrais, pas pour dire ce que nous échangeions, mais simplement pour qu'on sache qui j'avais vu. Et j'ai pris également la décision de publier mes dépenses, c'est-à-dire comment j'utilisais l'argent qui m'était versé par le Parlement européen. Franchement, ça m'a pas gêné une seule fois. Nous étions 3 députés français à faire la même chose à ce moment-là. Les autres auraient pu faire pareil. Je veux dire que c'est pas forcément ça relève pas forcément de la loi, et je pense que un règlement intérieur suffirait très largement à faire ces choses qui sont simples et qui gênent personne.
Géraldine Mühlmann, est-ce que le monde politique, le personnel politique en France a un vrai problème avec la morale et avec l'éthique? Je pense, et en préparant cette émission, je pensais à la phrase de François Fillon qui s'est retourné contre lui, prononcée à l'été 2016. Imagine-t-on un instant le général de Gaulle mis en examen? Le général de Gaulle, cette figure d'autorité et de moralité pluralité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y en a plus.
Ce qui prouve au passage que on pouvait être extrêmement vertueux, en tout cas c'est ce qu'on sait du général de Gaulle, sans aucune règle judiciaire aussi dure qu'aujourd'hui sur ces plans. Donc c'est personnellement, j'en tire toujours argument pour dire attention, c'est pas le même sujet, la question des règles et du judiciaire, que la question
de l'éthique personnelle.
Et par ailleurs, ce que vient de dire Corinne Lepage, moi je ne suis pas fan non plus de la publication de tous ces agendas. Je pense que par exemple, ça a un effet terrifiant, c'est que moi je pense que dans ces charges, toutes ces charges, ces gens sont crevés, un, et deux, n'ont pas le temps de réfléchir. C'est, ils le disent tous, de toute façon, ils ont un énorme problème de temps. Quand vous poussez à l'agenda, vous voulez le remplir, vous voulez montrer qu'il est bien rempli, en fait, vous faites quoi du temps de la pensée, du temps de, où vous lisez un ouvrage sur un sujet
mais
proche
ça peut
de
s'expliquer,
vrai,
ça.
Oui, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des effets. Je pense aussi qu'on n'a pas à rendre des comptes de toutes les minutes qu'on utilise. On peut aussi avoir une heure où on va à la piscine et c'est pas la peine non plus que tout le monde soit au courant. Vous voyez ce que je veux dire?
Et
je pense que ça
golf,
fait beaucoup de bien à tous ces gens-là d'aller à la piscine, par exemple. C'est pas un problème. Donc, je crois qu'on mélange un peu tout. Quant à la France, je suis convaincue que les Français sont plus adultes qu'on ne le croit. Ils ont des pulsions de colère hein, quand ils voient effectivement des millésimes et des langoustes, surtout quand elles n'ont pas été payées par celui qui les utilise, semble-t-il. Ça mérite encore vérification exacte. Mais je crois qu'ils comprennent très bien qu'ils n'ont pas accès à tout et que si on donne une enveloppe pour des frais de représentation, par exemple, on ne soit pas obligé de donner le détail absolu. Je ne suis pas une fanatique du détail absolu. Je crois que précisément, si on veut des gens vertueux, c'est qu'on ne veut pas des gens pris sans arrêt dans des procédures de contrôle. Je crois qu'il y a un minimum de confiance. Et cette affaire est intéressante pour cela, parce que elle rappelle que c'est un mode de vie. Et je suis pas sûre que les Français aient envie qu'ils changent complètement de mode de vie, les politiques. Mais que ce soit fait sans un scandale trop évident.
Corinne Lepage.
Oui, je voulais simplement dire qu'il y a une différence entre publier les rendez-vous qu'on a et dire tout ce qu'on fait de sa journée. Je dis pas ça, je dis simplement que quand je rencontrais des lobbies, des représentants d'intérêts, pas forcément des lobbies d'ailleurs, des représentants d'intérêts divers et variés, je le mettais à l'agenda. Un ministre, il a un agenda public, mais il dit pas toute la journée tout ce qu'il fait, c'est pas vrai, et heureusement. Donc là-dessus, c'est pas l'un ou l'autre. Je pense que les deux sont tout à fait peuvent tout à fait être satisfaits ensemble. Bon, de la même manière pour les dépenses. Non, je dis pas pour un ministre parce que maintenant c'est pas comme ça que ça se passe, mais pour un député, le fait de dire comment il utilise non pas son salaire, ça ne regarde que lui, mais l'indemnité de frais qui lui est versée, moi je vois pas en quoi c'est gênant, ça pose aucun problème. C'est un acte de transparence, ce sont des fonds publics. Voilà, donc c'est normal de dire comment on utilise les fonds publics. Dernier point sur les homards, langoustes et autres caviar. Quand vous recevez la reine d'Angleterre ou le président Poutine, c'est normal qu'on mette les petits plats dans les grands et qu'on montre tout ce que l'excellence française en termes de gastronomie ou d'œnologie est capable de produire. Quand vous invitez des copains, c'est pas la même chose. Donc, je dis pas que c'est un délit. Je dis simplement qu'il y a un petit problème éthique derrière cela. Et donc, ça, c'est quelque chose, voyez-vous, à éclaircir avec le règlement de l'Assemblée nationale pour être parfaitement précisé, comme du reste le fonctionnement interne des ministères.
France Culture, du grain à moudre. Antoine Janton.
Médias, morale, politique, de quoi l'affaire rugit est-elle le nom question posée dans du grain à moudre d'été ce soir. On en parle avec nos trois invités. Vous venez de l'entendre, l'avocate Corinne Lepage, la politiste et journaliste Géraldine Muhlmann et le spécialiste de l'écologie politique Daniel Bois. Parlons maintenant de la presse, car cette affaire a évidemment une dimension médiatique. Ce sont les informations de Mediapart qui ont conduit à la démission de François de Rugy. Informations déroulées presque comme un feuilleton en une semaine. Un nouvel article quasiment chaque jour. Est-ce que la presse a joué réellement son rôle dans ce dossier, Daniel Bois?
Oui, ben, on a un journalisme d'investigation manifestement de plus en plus présent dans la grande presse. Regardez la télévision maintenant, aux heures de grande diffusion, il y a les décodeurs, il y a etc. Tous les journaux maintenant ont quelque chose qui est de l'ordre de l'investigation, plus ou moins précis.
Ou de la vérification.
De la vérification.
En l'occurrence etc. pour les décodeurs.
Bon, ça c'est pas vieux, hein. Il y a 10 ans, on n'avait pas ça dans les journaux. La difficulté, je trouve, avec la presse, c'est que on a une presse qui est elle-même, comment dire, sous pression de ces affaires. Chaque année, il y a des enquêtes sur la perception des médias. Et ces enquêtes confirment d'année en année avec constance que les gens ont le sentiment que les médias sont corrompus. Je pense pas qu'ils ont raison, c'est pas ça la question. Mais ça donne une pression, je trouve, sur les journalistes qui est terrible d'une certaine façon, puisque eux-mêmes ont le sentiment d'être mal vus de la société. Ben, ça renforce, à mon avis, leur désir de chasser la corruption. Tant mieux si c'est avec des bonnes méthodes. Alors le choix des méthodes, la question des images qui paraissent, la question de ce qui part dans les réseaux sociaux, ben, c'est une question un peu plus compliquée après.
Gérald Immelmann.
Écoutez, moi j'ai passé grande partie de ma vie académique à dire que le cœur du journalisme, dont c'était mon objet de recherche pendant de longues années, c'était l'enquête, hein, c'était le reportage. Et de ce point de vue-là, quand même, je me permets de dire qu'heureusement que ça fait plus de 10 ans quand même que c'est même à l'origine de la tradition journalistique moderne que d'avoir mis cela un peu au cœur du métier, peut-être plus ailleurs qu'en France, c'est vrai. On a un grand journalisme éditorialisé en France, qui d'ailleurs fait partie aussi de notre... notoriété.
Et un grand journaliste d'investigation.
Mais on a aussi du journaliste d'investigation, avec parfois des méthodes un peu voyous. Et j'ai aussi écrit, donc je ne vais pas, le répéter, qu'il y a quelque chose d'un peu voyou. Mais parce que quand vous enquêtez, c'est très difficile. Il faut avoir des sources, il faut leur faire confiance. Il faut savoir... vous avez fait du reportage.
Oui, oui.
C'est difficile. C'est-à-dire, il y a quelque chose...
Mais sans méthode de voyou.
Quand on est... Non, il y a quelque chose d'un peu... Je dirais un peu cow-boy, quoi. Ouais. C'est-à-dire, oui, on y va. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a toujours une réflexion. On y va, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident, l'enquête. Voilà. Et c'est difficile de juger aussi de l'extérieur. Moi, je pense que ça se discute. Par exemple, je vous le dis franchement, je ne suis pas très à l'aise avec le feuilletonisme. C'est-à-dire le fait que je trouve ça un peu sadisant, quoi.
Bon. Une information par
jour.
Ouais,
je trouve ça un peu dur. Et en même temps, je reconnais que ça
c'est
fait
rare,
partie
hein,
du métier. C'est rare, c'est ce qu'on reproche justement à Mediapart de feuilletoniser.
Oui, je le souligne là, c'est rare d'avoir une affaire déroulée avec quasiment une information par jour.
Et en même temps, parfois ce n'est pas intentionnel, c'est que les premiers faits engendrent la découverte d'autres faits, et puis, etc. Et d'autres journaux s'en mêlent, etc. Donc j'essaye de parler aussi un peu du point de vue du métier, puisque, qui m'intéresse. Et je pense qu'on peut critiquer, qu'il faut surtout s'excuser quand on s'est trompé. Ça me paraît la règle numéro un. Et même un grand enquêteur peut se tromper. J'aime pas trop l'éditorialisation, le côté on est les purs et tous les autres sont les pourris, ou bien la feuilletonisation un peu sadique quand c'est le cas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, en l'occurrence, je pense qu'ils ont fait leur travail, Mediapart.
Corinne Lepage.
Oui, je redis, mais je veux pas revenir dessus. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je voudrais savoir au départ comment tout ça a été monté, et si il y a une opération de déstabilisation en dehors du travail journalistique qui a été fait, qui existe quelque part. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de savoir. Bon, les méthodes de Mediapart, on n'aime pas. Il n'empêche qu'ils font un vrai travail journalistique.
Il y a un vrai travail d'investigation, de recoupement des faits et de diffusion de l'information.
Sérieux. Et c'est vrai que on peut ne pas être d'accord avec un certain nombre de leurs positions, il n'en demeure pas moins que c'est un vrai travail journalistique. De même, quelqu'un comme Élise Lucet, moi je trouve qu'elle fait un travail remarquable sur France 2, il y a beaucoup de gens qui critiquent en disant que c'est scandaleux. Non, moi je trouve que c'est important d'informer les gens sur ce qu'ils ne sauraient pas s'il n'y avait pas la presse. Ça n'entraîne pas dans une transparence qui devient malsaine, parce qu'il faut quand même faire la part des choses, mais je pense que tout ce qui concerne l'utilisation de l'argent public, les questions de santé, les questions d'environnement, les questions de corruption, etc., c'est absolument fondamental dans la société contemporaine. J'ajouterai juste un point. Avec les réseaux sociaux et les fake news qui sont quand même un peu nombreuses, le métier de journaliste prend d'autant plus d'importance, parce que beaucoup de gens s'amusent à diffuser des infos qui sont absolument pas recoupées, ils sont pas journalistes, hein. Et donc, il y a des trucs qui partent dans la nature qui ne sont pas vrais. Donc, je pense que ça rend d'autant plus précieux le travail du journaliste.
Le travail de Mediapart, revenons-y, a beaucoup fait réagir ces derniers jours et on l'entend dans ce que vous dites aussi autour de cette table. Parmi les réactions, celle d'Emmanuel Macron, c'était hier lors de son déplacement en Serbie.
J'ai demandé au Premier ministre, justement, d'apporter toute la clarté. Et moi, je ne prends pas de décision sur la base de révélations, mais de faits. Il y a encore dans notre pays le respect de la personne individuelle, des droits de la défense et de la possibilité de répondre. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise deux choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les dix petits nègres. Bon. Donc, soyons clairs, je souhaite que chacun puisse être respecté. Je souhaite que les principes que j'ai posés soient respectés. Et j'ai demandé au Premier ministre de procéder en ce sens. Et donc, des propositions me seront faites, instruites par les faits.
Voilà, ça, c'était hier. Aujourd'hui, donc, la démission de François de Rugy. République de la délation, dit Emmanuel Macron. L'expression a beaucoup fait réagir Géraldine Munemann. On l'a dit, le travail de Mediapart, quelles que soient d'ailleurs les sources de ce site d'information, est un travail journalistique avec des faits qui ont été vérifiés et recoupés. Donc, pourquoi le président...
Et un droit de la défense, que normalement, on prévient la personne sur qui on enquête, on la laisse réagir.
C'est ce que Mediapart a fait avec François de Rugy. Mais pourquoi le président parle-t-il de délation?
C'est difficile d'interpréter ce propos parce qu'il ne nomme personne. Donc ça pourrait très bien s'appliquer à l'ambiance fake news.
Ou personnes qui ont éventuellement donné des informations à Mediapart, éventuellement en tout cas.
Voilà, éventuellement. Il ne nomme pas, je pensais, quand vous avez lancé ces propos du président, qu'il avait attaqué directement Mediapart, j'en étais d'ailleurs très surprise, il ne l'a pas fait.
Non.
Donc c'est pas du tout sûr que ça s'adresse à Mediapart, ça s'adresse à une ambiance.
Il parle quand même d'images, de photos. On pense aux photos des homards, des bouteilles de vin.
Mediapart. C'est exactement ce que j'ai dit au début de cette émission.
Oui, oui,
j'étais
pour ça
la première,
que je pose la question.
De ce point de vue-là, étonnamment, je réagissais comme lui. Je me dis, tiens, il y a une photo. Une photo, c'est un élément de fait, mais c'est pas un fait complet.
C'est un élément très puissant, c'est ce que soulignait Daniel Bois tout à l'heure.
J'ai tout de suite dit, il peut y avoir malentendu, d'autant plus que François de Rugy a dit, c'est pas moi qui ai demandé les langoustes, presque je ne suis pas concernée par ce dîner. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qu'on a raté. Bon, donc voilà, et donc il s'est étonné comme tout simplement parce que je pense que le pouvoir attendait de prendre une décision, ne voulait pas donner l'impression de réagir dans l'heure à l'opinion publique. Finalement, ils ont réagi dans les 48 heures.
Il nous reste une dizaine de minutes, j'aimerais bien qu'on passe à la politique, aux conséquences politiques, un point sur la défense de François de Rugy qu'on n'a pas vraiment évoqué. On l'a entendu tout à l'heure dire, moi j'aime pas le homard, je suis allergique aux crustacés. Qu'est-ce que vous pensez de cette défense?
C'est un exemple même de mauvaise défense, je veux dire. C'est triste à dire parce que c'est un peu terrible à dire, mais sa défense, c'est catastrophique, quoi. Ça consiste à dire, c'est pas moi, je l'ai pas fait, j'aime pas le homard, c'est vraiment pas la question, quoi. J'aime pas le homard, ben oui, mais il y a des gens qui sont là, c'est pas pour manger du homard. On pense pas quand même tous qu'il a fait ça pour lui-même manger du homard. Donc, excusez-moi, je trouve ça assez puéril comme défense dans l'ensemble. Mais pressé par le temps, on l'a dit tout à l'heure, les parlementaires, ils sont toujours sous pression. Et ils se demandent qu'est-ce qui va leur tomber dessus après-demain, il est dans un instant de panique. Et sa communication, elle ne tient absolument pas la route. Parce que la bonne communication, c'était de garder son calme et de dire, écoutez, je vais montrer la liste des invités, et vous allez voir qu'en fait, ce sont bien des professionnels qui ont été invités, je vais montrer exactement mon appartement. Ça, c'était une défense calme et possible. Commencer à dire, j'aime pas le homard, c'est une très très mauvaise défense.
Mais les invités se sont, en tout cas pour certains, manifestés tout seuls, et on a vu qu'il y avait des journalistes les invités. Bref, la politique, donc maintenant, les conséquences politiques de cette affaire François de Rugy, on va venir à la question qui pour incarner maintenant la politique du gouvernement. Avant cela, une déclaration, une réaction, celle de Julien Bayou, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, c'était sur Twitter tout à l'heure. L'autre victime de cette affaire, c'est l'écologie, écrivait-il. Corinne Lepage, est-ce que vous partagez cette analyse?
Bah, écoutez, moi je suis un peu partiale, puisque vous l'avez rappelé dans la présentation que vous avez bien voulu faire de ma personne, que j'étais pas du tout en phase avec la politique environnementale qui est menée actuellement, dont je considère qu'elle se limite à de la communication et pas du tout au fond des dossiers, et qu'au contraire, ce qui est fait est à peu près le contraire de ce qui est dit, ce qui ne colle pas. Bon, François de Rugy a été quand même très accommodant avec beaucoup de choses. Qui va lui succéder? Qui va lui succéder? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une personnalité très engagée sur la question environnementale qui va essayer de pousser le sujet, ou au contraire, est-ce qu'on va avoir quelqu'un de très politique qui va essayer de continuer à faire croire que, alors que c'est de bien d'autres choses dont on aurait besoin. Voilà, mais il est clair que cette valse des ministres n'est pas une bonne chose. Il faut de la continuité dans l'action publique, et là, manifestement, malheureusement, il n'y en a pas.
Alors, qui pour incarner la politique écologique du gouvernement? Des noms commencent déjà à circuler. Elisabeth Borne, qui, en tout cas, les trois ministres et secrétaires d'État qui étaient sous la responsabilité de François de Rugy, donc je le redis, Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, Brune Poirson, la secrétaire d'État, qui était donc auprès de François de Rugy, et puis Emmanuel Wargon, qu'on a beaucoup entendu et vu pendant le grand débat, secrétaire d'État, elle aussi, comme Brune Poirson. On parle aussi de Pascal Canfin, qui vient d'être élu député européen à La République En Marche, Pascal Durand aussi, autre figure de l'écologie politique, qui a été élu sur la liste La République En Marche, Renaissance. Est-ce que parmi ces noms-là, Daniel Bois, vous voyez émerger?
C'est très difficile. Ministre de l'écologie, ça suppose des très fortes compétences dans le domaine de l'environnement et de l'écologie. Et tout le monde n'a pas ça. C'est pas très très répandu. Hein. De ce point de vue, comme quelqu'un comme Canfin, quand même, c'est quelqu'un d'assez carré dans ce domaine. Et à mon avis, il dépasse un petit peu les autres d'une certaine tête.
Alors, il vient d'être élu à la tête de la commission environnement du Parlement européen.
Voilà. Donc
il s'en réjouissait la semaine dernière.
Il est déjà j'ai vu. Voilà. Il faut avoir cette très forte compétence. Et puis il faut une deuxième qualité, qui est la qualité de tous les personnels politiques, qui est absolument cruciale. Excusez-moi de la banalité, mais il faut être un politique. C'est-à-dire, il faut être à son poste. Il faut être capable d'assumer la politique gouvernementale dans son ensemble, ou de démissionner, comme disait Chevènement autrefois. Donc il faut être un politique qui a une stature et qui ne joue pas contre son camp. Il y a quand même des ministres, quelquefois, qui ont démissionné à cause d'un mot malheureux contre leur propre camp. C'est arrivé quelquefois, on s'en souvient. Donc il faut ces deux qualités fondamentales. Bon, je parle pas des qualités de gestionnaire, de tout ce qu'il y a derrière, mais certainement qu'il faut ces deux choses. Sur l'environnement, c'est quand même très important. L'environnement est quelque chose de compliqué. Les politiques environnementales sont complexes. C'est vraiment un écheveau compliqué à démêler.
Et particulièrement exposé.
Particulièrement exposé. On a une pression sociale très forte. On a des choses très contradictoires. On a le poids des lobbies. Donc c'est un métier très compliqué. Donc il faut une très forte stature de compétence dans ce domaine. Et puis il faut être, excusez-moi, un ou une politique. Et c'est pas donné absolument à tout le monde, parce que voilà, ça se crée pas tout seul.
Géraldine Mühlmann.
Je crois qu'il se pose d'abord un problème qui se poserait pour tout ministère, c'est que c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir une figure très connue, représentant vraiment quelque chose dans le paysage politique. On s'achemine maintenant vers des ministres jeunes, techniques, hein, souvent très intéressants, mais il y a aussi un autre problème, c'est que pour des raisons qui ne tiennent pas qu'à eux, et pas non plus qu'aux médias, qui tiennent aussi, je pense, au pouvoir tel qu'il est, à la présidence d'Emmanuel Macron, à la façon dont Édouard Philippe aussi gouverne, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace. Ils n'arrivent pas vraiment à exister. Alors, je ne demande qu'à avoir tort. Hein. Franchement, j'aimerais bien avoir un contre-exemple. Donc ça, c'est un problème général. Dans le cas de l'écologie, il y a un deuxième problème, c'est que on peut aller chercher un vrai militant qui connaîtra la cause, qui aura toutes les qualités requises que je viens de dire, en particulier la technicité que vous évoquiez aussi. Mais là, on a le problème, le risque du clash, quoi. Alors, un clash qui sera moins spectaculaire que celui de Nicolas Hulot, parce que lui, précisément, était probablement le dernier à avoir cette surface médiatique, cette histoire. C'est un vrai personnage connu avec une forte notoriété. Donc, ce sera sûrement pas ça. Ou alors, vraiment, il y a quelqu'un qui nous échappe, on n'y pense pas, et on dira, mais quelle erreur, mais j'aurais dû y penser ça. Bon. Et là, il y aura un militant qui aura son clash à lui, certainement, parce que je crois que les contradictions du désir écologique existent. Dans la société d'ailleurs, et au gouvernement aussi. C'est-à-dire, on veut être écologiste, puis en même temps, techniquement, on a du mal à l'être pour de bon quand il s'agit, par exemple, de signer un accord avec le Canada. Bon, vous voyez bien. Donc, ce problème-là, il se posera. Donc, peut-être, ce ne sera pas un militant. Les problèmes de l'écologie restent entiers, ne vont pas être résolus par cette nomination.
Voilà pour le portrait robot, donc Corinne Lepage. Quels sont les noms, quel est le nom que vous avez en tête, vous, pour succéder à François de Rugy?
Pas au jeu des pronostics. Je pense simplement que si l'écologie reste un ministère d'État numéro 2 du gouvernement, ça peut pas être une secrétaire d'État. Ça, c'est pas possible. Enfin, ça me paraît pas possible. Bon, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur le fait que les ministres actuels ont finalement très peu de marge de manœuvre. Compare avec ce que j'ai pu connaître il y a 25 ans. Alain Juppé n'était pas un homme très facile. Hein. Il avait beaucoup de tempérament et beaucoup d'autorité. Il n'empêche que les ministres existaient parce que c'était des politiques. Aujourd'hui, on a des ministres qui sont quand même extrêmement techniques et on a le sentiment que le plus souvent, ils sont des exécutants de ce qui leur est demandé plutôt que des décideurs à proprement parler. Et ça, c'est évidemment extrêmement gênant.
Daniel Bois.
Oui, ben, faut poursuivre sur cette question du ministre ou de la ministre à venir. Difficile de faire un portrait robot. Complètement d'accord avec ce que dit Corinne Lepage. On a des ministres qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Je me souviens de ce livre écrit par Corinne Lepage. Madame le ministre, on ne peut rien faire. Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, ce que racontait à l'époque Corinne Lepage, c'était que, voilà, il y avait une espèce d'inertie incroyable de l'administration, de Bercy, etc., pour résister à la volonté politique d'un ministre de l'Environnement et de l'Écologie. Donc, il y a une position très particulière hein, du ministre de l'Environnement qui est toujours sous le feu de... Alors c'est toujours Bercy, bien sûr, c'est toujours un petit peu la faute à Bercy, mais c'est pas faux quand même. Et donc c'est vrai qu'il est dans cette tension, si c'est un convaincu de la cause écologiste, et il faut que ça le soit pour qu'il soit ministre, on a toujours cette tension entre ce qu'il faudrait idéalement faire et qu'on vous demande tous les jours dans la rue de faire au plus vite, et puis le fait qu'on est dans des politiques de long terme, de grandes difficultés, de grandes technicités, et ce qui fait qu'on est vraiment dans des pressions croisées et difficiles à tenir.
Quel est le bilan de François de Rugy au ministère de la Transition écologique et solidaire, Gérald Immelmann?
Il n'y a pas été extrêmement longtemps.
10 mois, oui, à peu près.
Et écoutez, d'après ce que j'entends et lis, il a suivi certains dossiers, mais enfin, j'ai pas l'impression qu'il ait initié quelque chose qui restera.
Daniel Bois.
Non, alors c'est pas le bilan de François de Rugy qu'il faut poser, c'est le bilan du gouvernement, enfin du président Macron et de son gouvernement depuis qu'il est en place. C'est ça qu'il faut juger. Et là, il y a quand même quelques pièces. Il y a pas mal de documents qui sortent, de bilans qui sont faits. Regardez le Haut Conseil pour le climat, etc. Donc c'est ça qu'il faut juger, bien que ça c'est pas la responsabilité de Rugy.
Corinne Lepage, est-ce que vous croyez au changement de politique écologique initié par Édouard Philippe lors de son nouveau discours de politique générale en début juin?
J'ai l'habitude de juger aux actes, mais a priori, non. A priori, non, parce que tout ce que je vois et tout ce qui est dans les tuyaux va à l'encontre, précisément, d'une réelle prise en compte de l'environnement. Par exemple, la destruction des enquêtes publiques, qui existent quand même depuis la Révolution française, c'est absolument inacceptable. Le fait que le Conseil de la protection de la nature ne puisse plus s'occuper des sites, ce qui est prévu dans un texte qui est en préparation, c'est inacceptable. Bon, je prends ces deux exemples-là parce qu'ils me viennent dans la tête, mais il y en a énormément d'autres avec des projets absurdes, style Europa City, style un autoroute en pleine Camargue, etc. Tout ce qu'on voit de réel dans la vraie vie va à l'encontre d'une affirmation de vouloir réellement changer les choses. N'est pas vrai pour le moment. Elle deviendra peut-être.
Je me demandais juste si Corinne Lepage ne souhaitait pas par hasard être ministre, parce qu'à mon avis, elle a toutes ses chances.
Vous êtes candidate?
Non, je ne suis pas du tout candidate. Il y a un de vos collègues qui me l'a demandé, la confrère qui me l'a demandé. Non, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai passé ma vie à défendre l'environnement. Ouais. J'essaye aujourd'hui, en étant avocate et en travaillant beaucoup dans la société civile, d'être efficace. Gagner des choses qui font avancer le système. Mener les politiques qui ont été menées depuis 2 ans, moi, je pense que c'est pas du tout efficace. Et par votre conséquence, j'aime mieux rester là où je suis.
Eh bien, on a bien compris. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Corinne Lepage donc ne sera pas la prochaine, a priori, ministre de l'Environnement. On va suivre ça dans les heures et dans les jours qui viennent. Merci à tous les trois. Donc, Daniel Bois, directeur de recherche émérite au CEBIPOF, administrateur aussi de Transparency International. Gérald Immelmann, merci à vous, journaliste et politiste. Corinne Lepage, merci, avocate, ancienne ministre de l'Environnement. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Léa Capuano, Marguerite Loridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Rosenberg. Réalisation ce soir Thomas Jost, mise en onde Jacques Hubert. Pour réécouter cette émission, deux possibilités, l'application Radio France ou le site franceculture.fr. Restez avec nous, matière à penser à suivre.